L'option d'apprendre à vivre dans les ruines est l'option d'apprendre à penser sans la sécurité de nos démonstrations. Alors cette phrase, c'est vous qui l'écrivez, Isabelle Stengers, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous venez de publier « Réactiver le sens commun », qui est en fait la relecture et la réécriture d'un livre que vous aviez déjà publié il y a quelque temps, qui est consacré en partie au philosophe Whitehead, philosophe et mathématicien, on va évidemment en parler, et livre donc qui est publié dans la collection « Les empêcheurs de penser en rond » aux éditions de La Découverte. Alors, j'aimerais commencer par cette phrase, si vous voulez bien. « L'option d'apprendre à vivre dans les ruines est l'option d'apprendre à penser sans la sécurité de nos démonstrations. » Et en fait, dans le livre, vous ajoutez une phrase, « L'option de consentir à un monde devenu intrinsèquement problématique. » Déjà, pourquoi le monde est-il devenu intrinsèquement problématique? Qu'est-ce que ça désigne, cette formulation?
Plusieurs choses à la fois, puisque notre époque est une espèce d'entre-choc entre des problèmes, tous qui rendent tous plus problématiques le business as usual les uns que les autres. Bon, d'abord, effectivement, d'une part, le réchauffement climatique doublé de l'effondrement de la biodiversité. On va vers le printemps, un printemps silencieux, sans doute, enfin de plus en plus silencieux.
C'est-à-dire sans oiseaux?
Oui, mais aussi la crise politique profonde, trumpisme, etc. Comme on dit, les vieux démons se réveillent. Mais tout ça est lié, mais on ne peut pas faire la moindre généralisation qui ferait que s'adresser à un problème, ce serait prétendre résoudre l'autre en même temps. Donc, rien n'est plus simple. Tout est devenu... Et quand je dis problématique, c'est pas simplement « oh, on a des problèmes ouais. ». C'est Non, il faut apprendre à poser le problème. Ça demande l'apprentissage et l'invention... C'est ce qu'on appelle problématiser de comment échapper aux évidences. Et donc, oui, je crois que les ruines, c'est un assez beau, une assez belle image pour ça, non pas à cause d'une dimension catastrophique, c'est pas des ruines qui flambent, en tout cas pas celles auxquelles je fais allusion. Dans la définition des ruines, c'est qu'effectivement, on ne peut pas faire un pas devant l'autre sans regarder où on va et à ses pieds, où on met les pieds. Donc, effectivement, marcher, vivre dans les ruines, c'est ne rien tenir pour donné, auto-évident, et ne pas se sentir le droit d'escompter que demain sera comme aujourd'hui.
C'est ça. C'est-à-dire quand vous dites... Apprendre à penser sans la sécurité de nos démonstrations. Alors, démonstration, évidemment, on pense à la démonstration mathématique et à la démonstration logique. Mais apprendre à penser sans la sécurité de nos démonstrations, très concrètement, ça, qu'est-ce que ça implique par rapport à la compréhension de ce monde très complexe et mouvant que vous commencez à décrire?
Ça veut dire que nos démonstrations, dès lors qu'on quitte la logique ou les mathématiques, justement, où ça a un sens qui est le leur et qui n'est pas tellement problématique en lui-même, mais dès qu'on s'en va du côté des problèmes qui sont posés à nous, la sécurité des démonstrations en la matière, il y a toujours de quoi regarder à deux fois pour cette sécurité. Souvent, c'est un peu truqué. Quand on a une grande argumentation qui conclut à la satisfaction de celui qui démontre que c'est donc ainsi. Dès qu'on a un donc, quelque part, on ferait bien regarder comment ce donc s'articule, etc. Donc déjà, l'idée de démonstration en temps courant, on peut faire attention, être prudent avec ça. Mais alors, aujourd'hui, c'est le moment où aucun donc ne va de soi.
Ça veut dire qu'on ne peut plus faire de lien de causalité? Je ne sais pas, si on prend l'exemple du coronavirus ou si on prend l'exemple de l'acidification des océans, prenons des questions comme ça mondiales quoi, qui se posent aujourd'hui à l'humanité, on ne peut plus appliquer de raisonnement logique en fait, à ces phénomènes?
La logique, elle est pauvre, évidemment. l'une des manières faciles d'appliquer, mais justement, vous allez voir le dos qui suit pas. Il y a un responsable au coronavirus, le virus, à l'épidémie, le virus. Donc c'est assez facile de trouver des responsabilités. Mais de l'attribution de la responsabilité, il n'y a pas tellement de don qui suit.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, on a effectivement toute la complication, l'intrication, les vitesses enchevêtrées de ce monde.
Et ce monde devenu plus compliqué, est-ce qu'il est devenu plus compliqué du fait de la mondialisation? Du fait de l'accélération du temps? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent sur les temps, Hartmut Rosa, sur voilà, l'accélération qui nous prendrait de court. Est-ce que c'est dû à la fin de la facilité de la séparation entre d'un côté nature, de l'autre côté culture? Comment est-ce que vous remontez en fait aux origines de cette complexité contemporaine?
Je crois pas. Enfin, il y a plein d'origines et je suis pas tellement pour les grands panoramas. La seule chose que je pense, c'est que c'est pas innocent. Il y a des instances dans le monde qui sont très intéressées à enchevêtrer, à ce qu'on ne puisse pas dire, eh bien, il faut faire ça, c'est le responsable. Ah non, si vous touchez à ça, voilà ce que vous allez faire et tout s'écroulera. Ce qu'on appelle la mondialisation, c'est souvent une grande entreprise d'irresponsabilisation. Personne n'est responsable parce que c'est toujours, le responsable est toujours ailleurs. Donc, je crois que l'idée de retrouver un monde où on puisse dire, là, ça va pas, il faut changer. Un monde où une volonté politique puisse changer, ça impliquerait une transformation, comment dirais-je, qui est une fabrication de ici on doit pouvoir demander des comptes.
Ouais.
Donc de coupure de toutes ces connexions qui font que tout est toujours ailleurs. Donc je crois que le fait que ce monde soit devenu hyper compliqué, je dis pas que c'est une grande théorie du complot, mais tout de même, ça arrange beaucoup de gens.
Oui, donc c'est pas non plus, ça on va y venir après, c'est pas non plus complètement dépolitisé en fait.
Comme ah non.
Dire
non.
Ça veut pas dire ignorer l'existence de rapports de force, d'intérêts de certains à l'encontre des intérêts d'autres personnes.
Non, quand quelqu'un qui a le pouvoir veut trouver là où il a le pouvoir la possibilité de demander des comptes, ben, il organise les choses autrement. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la vérité. Ça veut dire que, effectivement, pouvoir se renvoyer la patate chaude indéfiniment, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, ça veut dire que on ne tient pas tellement à changer les choses.
Alors, donc, dans ce contexte, cette situation plutôt actuelle, donc de complexité que vous décrivez, vous, dans ce moment-là, vous proposez de réactiver ce que vous appelez le sens commun. Et ça, cette expression, elle appelle une explication de votre part, parce que c'est pas évident, en fait. On a un peu perdu de vue ce que ça veut dire, le sens commun. Est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer le sens commun, à vos yeux, ça signifie quoi?
Oui, c'est surtout... J'ai décidé, un peu à la suite de Whitehead, qui me tendait des perches pour ça et qui me faisait penser à partir de ça, d'inventer un sens du sens commun qui fasse sens. Pour être réactivé, parce que pour beaucoup, c'est à peu près comme le bon sens, etc. Or, et là, j'ai un peu hérité de Guattari, mais à ma manière, Félix Guattari proposait le triple désastre écologique. Pensez la situation d'aujourd'hui, non comme une espèce de progrès qui aurait mal tourné, mais comme héritier d'un désastre. Ouais. Ça change beaucoup de choses. Ça crée une perspective telle que il y a des choses qui ont l'air d'avoir malheureusement mal tourné. Ben non, c'était compris dans ce qu'on avait détruit. Or, justement... Ce que je propose ici, c'est de partir, non pas à partir d'une définition positive du sens commun, voilà ce que c'est. De toute façon, je déteste les définitions.
C'est ça, l'idéal auquel il faudrait arriver.
Oui, non, pas du tout. Mais de penser à partir de ce que j'appelle la défaite du sens commun. D'une manière ou d'une autre, depuis le 19e siècle, et notamment par rapport aux sciences, l'idée que le sens commun a toujours tort, d'ailleurs on dira sens commun ou opinion, ça voudra dire à peu près la même chose. L'idée que l'opinion ou le sens commun ont toujours tort, qu'ils sont faits pour être désabusés, que choquer le sens commun, c'est la vraie caractéristique, le vrai signe que l'on n'est pas dupe, c'est devenu un sport favori. Et je crois que quand on voit, et je crois que c'est un désastre politique.
Alors pourquoi? Pourquoi c'est un désastre politique?
Ben parce que essayer de faire une politique de type démocratique, disons, à partir d'une position qui en vient toujours à se glorifier d'humilier les gens, de dire de toute façon vous savez pas ce que vous dites, de toute façon vous manquez les bonnes raisons et on va vous démontrer, voilà encore une fois la démonstration, je vous rappelle, que vous savez pas ce que vous demandez, eh ben à force d'humilier les gens, ils peuvent devenir fâchés, très fâchés. Et fâchés, ça peut être très, très respectable. J'ai été vraiment tout à fait intéressée par les Gilets jaunes, où il y avait une bonne dose d'humiliation à l'œuvre. Et puis, ça peut devenir abominable aussi, comme quand on entend certains trumpistes. Mais de toute façon, avec l'humiliation, on crée une situation dont après on dira « mais elle est devenue ingouvernable ».
Ouais. La société est devenue ingouvernable.
Ouais. Et puis après.
Trop de démocratie, même, on va dire.
Oui, c'est ça. Et donc, ça sera mis sur le dos de la démocratie, alors que justement, je dirais, s'il y a un sens au mot démocratie, c'est trouver les dispositifs, non pas qui mettent d'accord les gens, mais qui leur permettent de faire sens en commun. C'est-à-dire que même là où ils ne sont pas d'accord, ils puissent articuler leurs désaccords. Non pas les lisser, mais les voir ensemble. Et ça change le fait de pouvoir voir, comme on disait dans le temps, d'où parle l'autre. Ouais. C'est-à-dire ce qui lui importe. Et de pouvoir, comprendre que oui, ça peut importer. Ça crée un nouveau type d'imagination. Qui justement ne désire pas avoir raison en donnant tort à l'autre. Et l'une des phrases de Whitehead que j'emploie souvent, c'est à la philosophie qu'il donne cette charge, cette tâche. Mais je dirais qu'aujourd'hui c'est une tâche qui convient à la politique, qui est parfois prise en charge par les activistes, qui est forger le sens commun et l'imagination.
Et alors, là-dessus, vous donnez notamment, je pense que c'est en lien avec cette articulation imagination et sens, mais vous allez me dire si je me trompe pas, parce que vous, à plusieurs moments dans le livre, vous citez l'exemple du mouvement contre les OGM, en faisant l'éloge, en disant que eux, de votre point de vue, ils ont réussi justement à tricoter un rapport au réel qui à la fois faisait sens et à la fois ouvrir des espaces. Est-ce que vous pourriez décrire pourquoi, enfin expliquer pourquoi, à vos yeux, ils ont réussi un agencement, ces militants anti-OGM, que d'autres ne sont pas parvenus à atteindre?
Mais c'est je parle souvent d'ailleurs de l'événement OGM, parce que pour moi c'est un événement politique dont d'ailleurs les suites sont encore ouvertes. Tout l'intérêt qu'il y a pour une agriculture non intensive, etc. Il est né là, il est né dans ce crevé-là. Ce qui s'est passé à cette époque, c'est que des tas de raisons de se méfier des OGM ou de refuser l'agriculture OGM, ont réussi à s'entre-articuler, ont réussi à fabriquer ensemble une opposition. Et une opposition qui, certains, il était pour des raisons de santé, d'autres pour des raisons de brevets, de mainmise capitaliste, d'autres pour les dangers écologiques. C'est en train de se passer, d'ailleurs, multiplication des souches résistantes. Ouais. D'autres par rapport à l'emploi des pesticides massifs. Donc, plein de raisons qui auraient pu essayer chacune de prouver qu'elles étaient la bonne en affaiblissant les autres. Et au lieu de ça, elles se sont rendues intelligentes les unes les autres. Et grâce à ça, tout à coup, on a vu les experts pour qui les OGM c'était la solution enfin rationnelle pour nourrir les 8 ou 9 milliards d'individus se mettre à bégayer. On a vu tout à coup, non pas que la science était coupable ou qu'elle se trompait, mais que l'imagination qui faisait parler ses représentants était tout à fait canalisé, tout à fait limité, et qu'ils n'avaient tout à coup, ils étaient face à des objections auxquelles ils n'avaient jamais pensé sérieusement.
C'est là où ils ont manqué d'imagination. C'est-à-dire qu'ils avaient suivi, en fait, leur logique. Oui. Si on reprend l'idée de la logique du début, c'est-à-dire qu'ils avaient suivi leur propre logique. On veut mettre en place des outils qui renforcent la productivité de l'agriculture et qu'ils n'avaient pas réfléchi, enfin, en tout cas pas suffisamment pensé, aux effets de contamination, par exemple, d'un champ à un autre, à la non-acceptation de ces cultures par des paysans, les effets économiques, le modèle juridique, etc. C'est ça, ils avaient suivi leur couloir, quoi.
Ils avaient choisi leur couloir ou leur ornière, comme dit Whitehead, qui dit que l'un des grands drames depuis le 19e siècle, c'est qu'on a inventé cette notion de professionnel, c'est-à-dire que ceux qui se changent en charge du nouveau dans le monde pensent dans des ornières et renvoient à l'insignifiant, ça s'arrangera, c'est incertain, c'est pas prouvé, tout ce qui les dérange, tout ce qui peut les ralentir. Eh bien, disons que eux, ils disaient au labo, ça se passe pas comme ça, mais ce qu'ils n'interrogeaient pas, c'est en dehors du labo. Ou tout ce que le labo a réussi à écarter, est là et attend, et va créer des conséquences qui n'avaient aucun sens au labo. Donc, ils n'ont pas pensé à cette opération de sortie-là. Mais, et le caractère politique de l'événement, quoi c'est un événement? C'est que c'est justement cette coalition de non-scientifiques qui en a fait penser certains, qui a fabriqué de la pensée, qui a fabriqué un faire-sens en commun, qui, y compris, a fait changer d'avis pas mal de scientifiques, a ouvert l'imagination de pas mal de scientifiques qui se sont dit, mais c'est vrai, ils ont raison, c'est caricatural cette histoire. Oui, mais la manière dont nos sciences fonctionnent est relativement faite pour produire ce genre de caricature. Et donner tort au sens commun qui va être dit refusant l'innovation, ayant peur, étant conservateur, etc. Donc il y a toute une manière de repousser des objections dont l'un des premiers sens est de souligner la différence de milieu pratique et concret entre un laboratoire peuplé de scientifiques et de techniciens et de collègues et de publications à faire, etc. et le milieu où cette innovation va faire d'autres effets totalement non cultivés par les scientifiques.
En même temps, qui n'est pas résolu. Alors, vous allez dire, justement, le point, c'est qu'on ne peut plus trouver de solution en tant que telle au problème. Mais ce que je veux dire, c'est que si on prend l'exemple des OGM, on trouve toujours, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui soient scientifiques ou croyant à la science de la manière dont vous le décrivez, c'est-à-dire peut-être ornière, dirait Whitehead, qui considèrent encore aujourd'hui, qui sont encore profondément convaincus aujourd'hui que cet outil, cette technologie est efficace et nécessaire. Donc, je veux dire, le sens commun ne veut pas dire consensus.
Oui, mais de moins en moins, en fait. Et avec beaucoup de conflits d'intérêts entre leur position et l'appui qu'ils reçoivent. Ouais. Donc, non, je crois... Moi, j'ai été un peu mêlée à une situation de ce genre en Belgique, de décontamination, comme on disait les gens. J'ai jamais reçu de tels témoignages de sympathie, mais de la part de gens qui n'étaient pas engagés. Non, non, il y a eu un point de bascule tout à coup. Il y a eu un point de bascule, et je crois que ça, c'est stable. Et que toutes ces histoires d'agroécologie, etc., proviennent de ça, est nourrie par ça. Quand ce genre d'événement se produit, ça a des suites, même si Monsanto est toujours debout.
Oui.
Mais de toute façon, je parlais de problématiser. Pour moi, ça n'est pas de résoudre. Pour moi, c'est important que, justement, on ne s'arrête pas à des contradictions construites, du genre la science et la rationalité d'un côté, l'engagement activiste de l'autre. Ce genre de...
Le savoir, les émotions.
Oui, tout ça.
La pensée, les opinions.
Exactement. Les causes, l'inexplicable. Enfin, tout ça, c'est des paresses de la pensée et des paresses soigneusement, je dirais, conservées, parce que ça permet de simplifier la situation et de la démembrer de telle sorte qu'on soit dans l'ordre du ou bien, qui cache toutes les possibilités de... arrêtez un peu, on pourrait tout de même poser les problèmes autrement, non ? Et c'est là que le mot problématisé prend son sens positif. Ouais. Voir un problème là où on avait une solution ou deux solutions antagonistes, etc. Dire, mais non, les deux s'entre-caricaturent. Et pour ça, justement, faire sens en commun, c'est un des sens de, que ça prend. C'est-à-dire que quand, comme dans le cas des OGM, pas mal de gens tout à coup disent oui, c'est vrai, ce oui, c'est vrai, c'est pas un tel a raison, c'est toute la situation me parle autrement. Mm. Donc, c'est vraiment faire changer la perception, non pas du côté de l'évidence, mais plutôt de l'évidence que jusqu'ici, pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté à poser le problème comme ça ?
Mais alors, là, on est au cœur, de la difficulté de penser cette proposition, me semble-t-il, dans la mesure, et pour en partie les raisons que vous présentiez juste avant, c'est-à-dire que le monde n'est pas fait d'esprits tous désintéressés. Et que la discussion, que ce soit sur les OGM, que ce soit sur le nucléaire, que ce soit sur quelle action à mener contre les dérèglements du climat, que ce soit quelle action à mener pour lutter contre la pandémie de coronavirus, bon, si on prend voilà quelques énormes exemples comme ça qui touchent énormément de gens aujourd'hui, les acteurs et les actrices de cette discussion, les personnes, les sujets concernés par ces sujets, ont des intérêts. Précisément. Ont des intérêts, il y a des rapports de force qui existent entre les uns et les autres. Ce que l'un a intérêt à faire avancer comme solution, je ne sais pas, on pourrait imaginer que, par exemple, un habitant de la côte du Bangladesh a fort intérêt à ce que, extrêmement rapidement, les extracteurs de charbon polonais ou gaziers états-uniens arrêtent d'extraire ces énergies fossiles. Et au-delà du fait que c'est compliqué de mettre tous ces gens dans la même pièce. Au-delà de ça, évidemment que chacun, enfin évidemment, en tout cas, de la manière dont ça se passe aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'ils défendent en fait leurs propres intérêts. Et donc du coup, est-ce que cette idée, cette presque un peu idéale de sens commun, il ne va pas buter sans cesse sur cette réalité-là d'intérêts différents, de rapports de force, d'inégalités sociales, géopolitiques, etc.
D'abord pour moi, la notion d'intérêt, ça veut d'abord dire l'existence d'une relation et d'une relation et je ne prends pas le mot intérêt en mauvaise part. Okay. Je crois que la neutralité, je me demande comment elle est construite et qu'est-ce qui est nié pour avoir une position d'intérêt et dire les faits sont là, je suis neutre. À quel fait vous référez-vous donc qui vous permettent d'être neutre. Ouais. Donc il faut d'abord ne pas faire des intérêts des obstacles. Par contre, si on est dans des dispositifs, et j'aime bien le terme dispositif, c'est-à-dire manière d'organiser la parole, ouais. Et d'organiser le sens même d'une rencontre. Si on est dans des dispositifs qui vont travailler à ses intérêts pour les rendre tellement contradictoires qu'on dira il faut un arbitre venu d'en haut, désintéressé, qui lui voit le bien commun, parce que vous voyez, ils n'arrivent pas à s'entendre, il faut d'abord interroger le dispositif. Il faut problématiser cette impossibilité. Donc, je ne dis pas que ce que j'appelle... La contre-proposition que je fais, notamment à partir de Whitehead, c'est des dispositifs que j'appelle génératifs, c'est-à-dire qui peuvent produire non pas des conversions, ouais. J'oublie mes intérêts, mais des inflexions de la manière dont des intérêts se formulent, des hésitations sur « je suis intéressé à ça, donc ». Donc des hésitations sur ce « donc », qui fait que chacun doit argumenter à partir de ses intérêts comme si il s'agissait de vaincre les autres. Il y a des dispositifs de ce genre, et il y en a dont j'appelle la palabre.
Ouais. Alors est-ce que justement, j'allais dire, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de ces dispositifs génératifs ?
Un que j'ai connu un peu par le hasard de la vie, parce que c'était pas du tout en poursuite professionnelle, mais ça m'a transformée, c'est d'avoir participé à la manière dont en milieu africain il arrive qu'on discute d'un problème qui peut semer le trouble. Et là, c'était une réunion mixte avec des Blancs et des Africains, si je peux dire. Ben, c'était un problème d'ordre privé, mais qui concernait des communautés, parce qu'il n'y a pas d'ordre vraiment privé en tradition africaine. Si un couple se sépare, c'est tout l'ordre du monde qui doit se réinventer. Eh bien, là, j'ai vu que ça ressemble à des artifices. Notamment, mais c'est quelque chose que les activistes, surtout aux États-Unis, ont repris aussi. C'est-à-dire ne jamais attribuer à l'autre des intentions qui permettront d'affaiblir sa position. Oui, tu dis ça parce que ne jamais donc insulter les autres. Toujours renvoyer à la situation, demander à la situation d'articuler la position, donner à la situation un caractère de plus en plus concret. Il y a aussi d'autres dispositifs, il m'a beaucoup intéressé, mais tout de même, les Quakers, c'est une drôle d'histoire.
Alors pourquoi ça?
Parce que depuis le XVIIe siècle, ils ont toujours été un peu en avance. Aujourd'hui, ils sont écologistes profonds. Il y a des Quakers, d'ailleurs, sorciers, au sens néo-païen, activistes du terme. Mais ils ont été pour l'égalité des sexes, anticoloniales, anti-guerre, etc. Tout en étant extrêmement réalistes. Et quand on voit leur rite, eh bien, l'une des premières choses qui est dit, le silence est connu, hein, faire silence. Puis certaines paroles, mes frères, n'oubliez pas que vous pourriez être dans l'erreur, qui se dit à tous.
Au démarrage d'une discussion.
Au démarrage, chacun pourrait être dans l'erreur. Donc ça veut dire que la question « je ne me trompe pas, j'ai raison » est immédiatement affaiblie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des raisons. Mais entre avoir des raisons et dire « j'ai raison », il peut y avoir un gouffre. Et donc, c'est toutes ces interstices-là qui doivent être travaillés. C'est une forme de culture politique.
Hein. Oui. C'est intéressant, que vous citiez, en effet, l'exemple des Quakers, parce que l'anthropologue David Graeber, qui a beaucoup travaillé sur les mouvements anarchistes, qui est voilà, par ailleurs lui-même un militant anarchiste, a tracé cette généalogie entre les modes de réunion Quaker et les réunions horizontales et les pratiques de partage de parole horizontales des groupes affinitaires anar ou anti-État qu'on a trouvé dans les mouvements altermondialistes et puis qu'on poursuit ensuite.
C'est-à-dire qu'on parle souvent d'emprunt au mode de réunion prémoderne, comme le palabre ou d'autres, il y en a beaucoup, mais il y a aussi les Quakers.
Et l'autre exemple que vous citez, j'aimerais bien que vous nous en disiez quelques mots, c'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Oui.
Et vous les citez notamment par rapport à leur contribution, alors, pas au sens commun en tant que tel, mais au commun, comme un endroit de fabrique du commun. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi est-ce que vous voyez la ZAD de Notre-Dame-des-Landes comme ça ?
Mais d'abord, les communs. Je veux dire, pour moi, la ZAD, plus d'autres choses, c'est-à-dire la lutte contre le monde de Macron et tout ça, la ZAD fait partie aussi de ce que je tends à appeler une résurgence des communs. Et ça, encore une fois, dans la perspective de Guattari, c'est-à-dire du désastre qui, pour lui, était à la fois écologique au sens usuel, mais aussi écologie sociale et écologie subjective, personnelle, individuelle, triple désastre écologique corrélé. Eh bien, la destruction des communs, ce qu'on a appelé les enclosures, ça fait partie de ce désastre. C'est même, comme l'a montré quelqu'un comme Sylvia Federici dans Caliban et la sorcière, la destruction des communs accompagne le colonialisme intérieur dans les pays coloniaux et colonialisme extérieur. Partout, on détruit les communs pour installer une espèce d'individualisation de propriété privée et d'exploitation. Donc, la destruction, le ravage globalisant du monde et des mondes et la destruction des communs ont partie liée. Donc la résurgence des communs, c'est finalement, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Et pour moi, c'est quelque chose, quand je dis problématiser, c'est pas se gratter la tête avec beaucoup de perplexité. C'est fabriquer ce qu'on peut appeler des inconnus de la question. Et l'une des inconnues, c'est nous ne... parlait de tous ces intérêts qui s'entrechoquent. Oui, nous ne savons pas de quoi les humains sont capables. Parce que ce que nous connaissons et ce qui a été introduit et ce sur quoi nous fondons nos démonstrations d'impossibilité, c'est des humains mutilés. Et mutilés justement par cette culture du commun, cette culture de comment vivre ensemble, et pas seulement entre humains, ça peut être aussi avec des non-humains, avec des vivants et avec des lieux surtout. Ce à quoi nous avons affaire, ce sont des êtres qui ont été mutilés. Nous sommes tous mutilés. Et ça, je crois que c'est très important. Nous le sommes tous. C'est quelque chose que Starhawk, la sorcière néo-païenne, dit. Nous avons tous à nous réapproprier, mais au sens... ou se réapproprier, c'est de redevenir propre à ce dont nous avons été séparés. Nous sommes tous malades. Ce monde nous rend malades. Et fonder des visions du monde et des visions d'impossibilité indépendamment de ces mouvements de réappropriation et de refaire en commun, de refaire commun, pour moi, c'est certainement partir d'un problème mal posé. Maintenant, évidemment... on va pas, en trois coups de baguette magique, dire « et ça va résoudre le problème du réchauffement climatique ». Non, c'est simplement, pour moi, le genre de processus et qu'on voit un peu partout, qui se développe un peu partout. Bon, Notre-Dame-des-Landes est un des exemples, mais il y en a des beaucoup plus obscurs, évidemment, mais on voit un nouveau tissu de gens qui lient... penser ce qu'ils font, faire des choses ensemble et faire de la politique, c'est-à-dire retrouver la force de poser leurs propres problèmes.
On arrive au terme de l'émission. Il y a une dernière question que quand même j'aimerais vous poser dans la foulée de cela. C'est, il y a beaucoup de discussions depuis quelques années autour de la notion d'un effondrement. Le monde serait en train, et notre civilisation serait en train de vivre un effondrement. Ça crée beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude, et ça crée des réactions de divers ordres. Mais est-ce que pour vous, la conscience de la gravité de ce qui est en train de se passer, en termes d'attaque aux écosystèmes, aux milieux de vie, etc., est propice au développement de ce que vous venez de décrire en termes de commun, et donc peut-être propice à réactiver le sens commun? Ou est-ce qu'au contraire, ça menace ce processus?
À mon sens, je dirais pas que ce serait la première menace. La première menace, comme qu'en faire Notre-Dame-des-Landes, c'est les matraques et les bombes fumigènes et tout ça. Enfin, c'est ce monde qui défend la propriété privée et l'autorité de l'État. Donc je dirais pas que c'est le premier ennemi. Par contre, c'est quelque chose qu'on peut expliquer, mais par rapport au je crois qu'il faut apprendre à résister. C'est une pensée triste et c'est une pensée, comme toutes les pensées tristes, abstraite. C'est-à-dire que ce qui est oublié...
La pensée de l'effondrement.
Ouais. C'est que... Bon, ça aurait pu aller 5 minutes avant la grande explosion thermonucléaire qui ravage tout. Parce que là, effectivement, d'un seul coup, très proprement, il y a quelques milliards de morts. Hein. Mais ici, ça se passera pas comme ça. C'est pas la bonne image. Le rideau tombe. Non, le rideau tombera pas. Même en 2050, si on est encore dans une mer de noir semblable à celle-ci, eh bien... nos descendants et les descendants de nos descendants et tout ça, ils vont encore vivre pendant des siècles. Donc, pour moi, dire tout va s'effondrer, sauf qui peut, c'est leur léguer un poison en plus de tous les problèmes qu'ils vont devoir affronter. C'est leur léguer des pensées tristes et impuissantes. Moi, ce que je pense être ma tâche en tant que philosophe, qui ne veut pas grand-chose, c'est participer à la fabrication, on pourrait dire, de modes de pensée, de modes de faire et de modes d'agir ensemble et de penser que peuvent des gens ensemble, faire sens en commun, qui puissent leur servir, qu'il soit pas un modèle pour eux, mais qu'il puisse tout de même être une petite offre qu'on aura pu recréer dans un monde en débâcle et par rapport auquel il pourrait travailler. Donc c'est vraiment une perspective qu'on puisse leur transmettre autre chose que leur du désespoir. Pour moi, c'est ce qui se fait à Notre-Dame-des-Landes et les jeunes, je crois, ne s'y trompent pas, puisqu'il y en a beaucoup pour qui ça fait éminemment sens d'aller à Notre-Dame-des-Landes, voire d'y rester, je veux dire. Il y a là, on ne se rend pas compte à quel point la jeunesse est une inconnue. On l'a vu avec Greta.
Greta Thunberg.
Greta Thunberg, mais un peu partout, ça peut réserver des surprises. Mais justement, on ne peut pas dire, ils ne sont pas nos lumières, mais ils ne sont pas nos victimes. Ils ont quelque chose à faire. Et on peut leur tendre la main et leur donner ce que nous, on a pu faire avec beaucoup d'humilité.
Bon, bah, merci beaucoup Isabelle Sengers d'être venue à Mediapart spécialement pour cette discussion. Vraiment, remerciement chaleureux. Et donc, toute cette réflexion sur le sens commun et donc ces dispositifs génératifs que vous proposez, la lecture de ce livre, la publication de ce livre arrive sans doute à un bon moment. Donc, à très bientôt à vous, Isabelle, sur la ZAD ou ailleurs.
Ouais.
Et à celles et ceux qui nous ont regardés, à très bientôt sur Mediapart.